On va passer la parole à Jean-Yves Joinet, qui, notamment en parlant de cette histoire de choix, a écrit un livre qui s'appelle « Artiste sans œuvre, I would prefer not to » en 97, qui est enseignant aux Beaux-Arts de Paris et membre de l'IMEC, l'Institut des mémoires de l'édition contemporaine, et qui va nous parler d'un projet sur les archives de guerre.
Non, mais ne bougez pas. Je n'ai ni la compétence ni l'ambition de faire avancer ce débat très, très technique. Et prenez ma prise de parole comme un interlude. Ça va être très bref, puisque je voudrais juste évoquer un projet qui va avoir lieu à l'école, puisque je suis en charge, entre autres, comment ça s'appelle ? Ça s'appelle Diagonale. Ça s'appelle Diagonale, c'est destiné au premier cycle, premier à troisième année. Et il s'agit de donner à entendre des paroles sur des domaines qui n'ont rien à voir avec l'esthétique ou l'histoire de l'art. Et ça va de la médecine, la neurochirurgie à l'économie. Et justement, j'ai mis en place un programme qui a trait à l'archivistique. Mais ça ne fait pas de moi un spécialiste de l'archive, loin de là. Et c'est parce que je ne comprends rien à l'archive que j'ai invité des gens pour en parler. Donc c'est en deux mots, c'est une espèce de publicité pour ce que je vais faire à l'école à partir de janvier et mars. En deux temps, c'est très binaire, c'est en gros qu'est-ce que l'art produit comme type d'archive, et dans un deuxième temps, quel type d'art on produit à partir des archives. Alors, dans un premier temps, on a invité Nathalie Léger, justement Nathalie Léger qui est la directrice de l'IMEC, Institut Mémoire de l'édition contemporaine, qui est c'est pas la BNF, certes, mais c'est un très grand fonds d'archives littéraires en France. Ça se trouve dans un lieu extraordinaire qui s'appelle l'abbaye d'Ardennes, à Caen. Et je crois que c'est à peu près un peu plus de 700 fonds d'archives, littérature et sciences humaines, Derrida, Duras, etc. Mais aussi un cinéaste, Alain Resnais, qui a déposé ses archives de manière très singulière et originale à l'IMEC, puisque ça se présente de la manière suivante. Chaque film, chaque bobine de film est déposée dans une valise, accompagnée des brouillons, des synopsis de chacun de ces films. Et parmi ces films, il y a l'un de ses premiers courts-métrages, 1956, « Toute la mémoire du monde », un très beau film sur la BNF, justement, que je vais commencer par montrer en janvier aux étudiants qui seront présents. Et puis, peut-être une réflexion justement sur cette chose qui est devenue l'archive en littérature. Beaucoup d'écrivains, et je pense à une réflexion de Pascal Quignard dans les années 80, qui s'est dit, mais on est en train de faire de nous des producteurs de brouillons. Voilà. Est-ce qu'un écrivain, une écrivaine, c'est un auteur de livres ou c'est un auteur de brouillons, de paperoles, de repentir et c'est une vraie question. Ce fétichisme du repentir, de la paperole, du brouillon est devenu très suspect et pour le coup mérite d'être discuté. Voilà. Donc ça sera dans un premier temps cette question sur ce qu'on attend d'un artiste. Est-ce que c'est de produire des esquisses, des brouillons ou des œuvres ? Question assez simple mais intéressante. Et puis dans un second temps, cette chose un peu binaire, cette réponse, à savoir ce que beaucoup de créateurs, d'artistes ont produit à partir des archives. Alors, ça commence il y a très longtemps, mais moi, je fais commencer ça avec le projet avorté de Michel Foucault, ce très beau livre qui n'a pas eu lieu, Histoire des hommes infâmes, dont il n'écrira que la préface en 72. Ce rêve d'un livre qu'il aurait voulu faire à partir des archives de l'hôpital général. Et puis, c'est une histoire qui continue jusqu'à nous. Et là, c'est un prolongement de ce qu'on appelle l'objectivisme en littérature. C'est d'ailleurs un exercice de la littérature où l'inspiration n'intervient plus, ou n'intervient pas, et où il s'agirait de plonger et de refaire monter à la surface des matériaux d'archives. Et il y a une anecdote assez troublante, je pense aux écrivains qui, après la chute du mur de Berlin, justement, se sont saisis des archives policières de la Stasi, qui leur étaient dédiées, puisque, comme vous savez, tous les citoyens et citoyennes de l'ex-Allemagne de l'Est avaient étaient fichés, un certain nombre de métrages d'informations leur étaient dédiés, jusqu'à leur odeur d'ailleurs, parce qu'on parle très peu de l'archivage des odeurs, mais tout citoyen ex-allemand avait son odeur prélevée dans un bocal. Au cas de fuite, on pouvait faire renifler un chien policier pour retrouver le fugitif. Donc c'est, voilà. Et une fois ouvertes à tout public, ces archives, eh bien, trois auteurs au moins, trois romanciers, se sont emparés de leurs archives policières et les ont publiées sous le titre roman, sans y intervenir aucunement, ni ajoutant une virgule ou un point. Voilà, donc c'est comment... Et c'est bizarrement une histoire allemande, selon ma faible culture, puisque je pense aussi à des écrivains comme Alexander Kluge, dont le premier livre publié en France s'appelle Stalingrad. Alors, ça s'appelle Stalingrad aujourd'hui, mais ça s'appelle Stalingrad de point, histoire d'une bataille. Ce n'est pas le titre exactement, mais où il s'est emparé des archives militaires pour raconter à sa manière, sans intervenir en tant qu'auteur, dans ce très beau livre. Et puis, je pense aussi à un autre Allemand qui est Hans Magnus Enzensberger, qui, avec ce livre inouï qui s'appelle Le bref été de l'anarchie, et puis jusqu'à ce livre qui est, pour moi, ce que j'appelle la littérature de l'archive, véritablement, que vous connaissez peut-être, Emrad Becker, qui passe 40 ans de sa vie, il est mort aujourd'hui, à essayer de comprendre ce qui s'est passé avec la solution finale et plonge dans les archives du nazisme et compose un livre. Je ne vais pas vous en lire un passage ce matin, mais c'est édifiant. C'est le livre le plus inouï en termes d'informations sur la solution finale. Et ça s'appelle tout simplement transcription, parce qu'il n'y a pas une autre opération d'écriture que celle de la transcription dans ce livre. Voilà, c'était tout ce que je voulais vous raconter, et comme une espèce de programme de ce qui va se passer dans ce même amphi à partir du mois de janvier. Merci pour votre attention.
Tu peux nous dire les dates, c'est 8 et 9, c'est ça ?
Oui, c'est juste après les fêtes de Noël, c'est 8 et 9, lundi et mardi.
Peut-être quand même, tu as présenté un peu Jean-Yves, mais rappelez aussi que Jean-Yves propose chaque mois, une fois par mois, une performance à Beaubourg qu'il a intitulée L'Encyclopédie des guerres, et c'est un peu, enfin, qui du coup est très lié aussi à un projet qui t'est cher et qui t'a fait te retrouver aussi lié à l'IMEC, c'est que tu as quand même archivé pendant des années une quantité d'ouvrages de guerre assez importante.
Oui, mais...
Tu as une pratique de l'archive, je veux dire...
Mais non, justement, mais c'est ça qui est intéressant. Mais ça va dans... C'est ce que l'intitulé de l'intervention de Monique jeudi Balini sur... Alors, je ne l'ai pas en tête, mais c'est... qu'est-ce que dans certaines civilisations dites orales, où l'écriture n'a pas lieu d'être, qu'est-ce qu'on est censé pouvoir ou devoir archiver ? Enfin, moi, je pense que l'archive, l'idée que je m'en fais, c'est qu'on garde ce que l'on... C'est l'idée de garder ce qu'on pense pouvoir désirer regarder encore. Enfin, on garde ce que l'on veut regarder encore. Et l'Encyclopédie des guerres, oui, en deux mots, c'est un cycle de conférences à un rythme mensuel qui a lieu à Beaubourg. La 142e séance aura lieu jeudi, là, si Beaubourg n'est pas en grève. Et c'est une encyclopédie des guerres qui commence avec l'Iliade et qui finit le 6 août 1945 à 8h, 13 minutes et 2 secondes heure de Tokyo, pour une raison très particulière. Et justement, c'est un roman oral. C'est un livre que je n'ai pas désiré publier. Donc c'est une succession de moments de parole. C'est très homérique, au sens premier du terme. Mais Beaubourg a désiré filmer. Il y a des captations. Moi, je me suis toujours opposé à ce qu'il y ait des films, puisque je dis justement, c'est juste des moments de parole. Mais Beaubourg filme cela parce qu'il se sent obligé de filmer, parce que, je ne sais pas, c'est dans les conventions. Maintenant, il n'y a pas une prise de parole sans captation. Mais en même temps, ils ne savent pas quoi faire de ces films-là. C'est-à-dire que, d'abord, ils en ont perdu la moitié. Donc, ils ne savent pas faire, ils ne savent pas utiliser ça, ils ne savent pas pourquoi ils font ça. Et ça va à l'encontre même du principe premier qui était le mien, à savoir... parler dans le vide et imaginer un brouillon sur 15 ans d'un livre qui n'existera jamais. Et la conclusion, elle est fantastique et burlesque à la fois, puisque l'IMEC m'a demandé de déposer ma bibliothèque de guerre et toutes mes archives à l'IMEC, ce qui est fait, j'ai plus de livres de guerre chez moi, et puis d'imaginer une exposition qu'on va monter pour le printemps prochain. Donc c'est comment... Alors je dis pas que je suis victime de cela, je dis que en fait c'est plutôt très excitant, mais... ce n'est pas un désir, et je pense qu'il y a beaucoup de créateurs, de créatrices qui sont vaguement emportés par cette espèce de nécessité aujourd'hui d'archiver, voilà, mais qui ne correspondent pas au désir de tout le monde. Moi, voilà. Donc c'est une histoire compliquée et très simple en même temps.
Tu veux dire que tu ferais une distinction entre accumulation et archive ? Parce que tu as accumulé quand même des livres. Enfin, je veux dire, même si ce n'était pas un désir d'archive ou...
Alors, je pense... Après, je vais répondre Je pense qu'il y a aussi quelque chose dont on ne parle que très peu, c'est la question des... C'est un aspect psychologique. Il y a des gens qui aiment garder et des gens qui aiment se débarrasser. Alors, cette caractérologie, on a l'impression qu'elle ne rentre pas en ligne de compte. Mais pour le coup, l'idée de l'archive va être très embarrassante pour certains et très excitante pour d'autres. Alors, il y a des gens qui jettent tout, qui aiment se délester, et ils se disent dans un premier temps, ça a à voir avec l'encombrement, la suffocation. Mais en fait, on constate très vite que ces gens, et j'en fais partie, adorent annuler leur mail ou effacer leur texto comme si c'était déjà trop de... Voilà. Donc, en fait, je pense que psychologiquement, il y a des gens qui sont plutôt portés à l'enthousiasme, à l'idée de l'archivage, et d'autres que ça écœure un petit peu. Voilà. Mais...
Merci. Non, mais c'est exactement ce qu'on pensait. Oui, on va vous, bien sûr, faire passer le micro si vous avez des questions, mais c'est l'idée, effectivement, d'ouvrir un peu les perspectives. Merci, Jean-Yves.
Non, je suis désolée, mais j'allais rajouter et la perspective écologique par rapport à cette histoire d'archivage en dehors de j'ai envie, j'ai pas envie, qui est quand même, j'ai l'impression, la coupole, non ? Une sorte de coupole quand même de toutes nos discussions.
Ou d'enclume.
Mais bon, qui viendra peut-être à un moment donné. Hein, je sais pas.
Bah, ça va arriver. Hein. Enfin, ça va tous nous arriver. Non, mais.
Enfin.
Enfin. Non, je pense qu'on va évidemment en parler parce que, en tout cas, c'est pas un tabou. Hein, au contraire, c'est que on va aborder la question de l'intelligence artificielle, de la blockchain, donc ces technologies qui apparaissent. Et qui sous-tendent, enfin, qui sont comme de nouveaux outils, une nouvelle matière au-dessus d'Internet. Déjà, Internet est très énergivore, mais alors là, effectivement, on rentre dans d'autres considérations, et on ne pourra pas ne pas en parler, je pense. Mais effectivement, c'est comme un filigrane.
La question du sens même d'archiver. Et qui nous semble être acquise là, à ce stade de la discussion, mais que je remets un petit peu en question. Et en regard le contact entre les gens. C'est-à-dire qu'on est en train de s'éloigner du contact réel, physique, sensoriel, et que l'archive contribue à aller chercher donc. C'est même le propos même d'une archive, d'aller chercher dans des endroits où il y a peut-être plus d'humains des informations, mais ça éloigne encore plus, je dirais.
En tout cas, je ne sais pas si c'est connecté, écoutant Jean-Yves, moi je pensais à deux expressions, le désir d'archive et puis la maladie d'archive, entre guillemets, cette espèce de moment où il ne faut pas le prendre mal, hein, Jean-Yves.
Moi, j'aurais juste. Je ne sais pas si on m'entend. Oui, j'avais juste un truc à répondre comme ça dans le feu de l'action. C'est, à mon sens, quand même, on est encore dans les histoires de 1%. Hein, là. C'est-à-dire que la majeure partie de l'énergie dépensée par Internet, la blockchain, ce n'est pas vraiment au cœur des gens à qui est adressé ce colloque. C'est-à-dire. On est très peu, en fait, de gens qui fabriquent de l'art, et la majeure partie de l'énergie qui est dépensée, c'est pour des grosses boîtes qui font n'importe quoi avec leurs données et avec nos données. Donc, il y a peut-être aussi une nuance à mettre à cet endroit-là, mais bon, du coup, je reste un petit peu sur ma position que les artistes et les gens qui font des choses qu'ils veulent partager devraient avoir un peu un droit à l'archivage, s'ils le souhaitent, hein, c'est pas une obligation. Tandis que peut-être que les grosses entreprises qui font n'importe quoi, qui font du scraping sur Internet pour nourrir des IA, les bases de données de Facebook, le Bitcoin mining et tout ça, peut-être que là, oui, effectivement, il y a un problème écologique qui est évident et qui va nous éclater à la figure. Donc on est tout à fait d'accord. Il y avait une autre question, oui.
Oui, c'est une question qui va faire peut-être un lien entre ces trois interventions, avec ces trois interventions. Sur la question écologique, Benjamin, je te rejoindrai, il y a du trading à haute fréquence qui bousille tout pour des choses un peu inutiles. Est-ce que c'est vraiment le fait d'archiver qui contribue aujourd'hui à l'écocide? J'en suis pas convaincu. Et par exemple, sur l'idée de l'encyclopédie des guerres, moi je travaille principalement sur l'OSINT, donc les enquêtes en sources ouvertes, et en ce moment on est en train de travailler sur le conflit Israël-Hamas, sur la guerre en Ukraine, et heureusement qu'il y a des archives qui sont faites à la fois par les grandes plateformes. Twitter, on peut lui reprocher ce qu'on veut, mais il conserve tout, donc toutes les images des massacres, qui permet ensuite qu'on puisse investiguer pour justifier, comprendre ce qui s'est passé, amener les enquêtes à la Cour pénale internationale, par exemple. Et donc c'est cette question de l'encyclopédie des guerres que je voulais peut-être vous demander, Jean-Yves. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse, toute cette encyclopédie, cet archivage de la guerre, des guerres actuelles en ligne? Est-ce que c'est des choses sur lesquelles vous travaillez? J'avais assisté à l'encyclopédie des guerres une fois, mais il y a quelques années. Je serais intéressé d'avoir votre point de vue là-dessus.
Absolument pas. En fait, pour plein de raisons. C'est-à-dire que d'abord, la guerre ne m'intéresse pas. Le terme intérêt est un terme très pernicieux en français, qui désigne l'usure monétaire, et qu'il y a... Il y a dans l'idée d'être intéressé par quelque chose de très sournois. Donc j'ai une curiosité à l'endroit de la guerre, et le but du jeu pour moi, c'est de comprendre la nature de cette curiosité. Mais ce n'est pas l'intérêt. C'est la raison pour laquelle, en tant que citoyen aujourd'hui, je regarde l'actualité comme n'importe laquelle d'entre vous, et que ces conflits font partie d'un paysage. Mais tout autant le Haut-Karabakh que Gaza, ça je précise aussi. Et par ailleurs, cette actualité n'intervient à aucun moment dans l'Encyclopédie des guerres, qui est un roman qui n'a qu'un seul sujet, c'est la littérature, en fait. C'est comme si l'Encyclopédie des guerres n'était qu'un prétexte pour parler de la littérature, c'est-à-dire comment... C'est le transport des énergies des récits, en fait, qui m'intéresse. C'est comment Achille et Hector parviennent jusqu'à nous. Et comment Penthésilée arrive jusqu'à nous, et comment Jeanne d'Arc arrive jusqu'à nous, et sous quelle forme, avec quel attribut, au gré de digressions, de transformations, de traductions, de trahisons, les matériaux des récits parviennent jusqu'à nous. Voilà, comment ils traversent les époques. Et pour plein de raisons, je pense que la guerre est un milieu, comme on parle de l'air, de l'eau, c'est un milieu idéal pour étudier la transmission des récits et des figures et des fables et des légendes. Voilà, donc en fait, la guerre, je la vois de manière comme un peu cynique, comme un milieu au sein de quoi on peut étudier ce qui m'intéresse, c'est-à-dire la littérature. C'est une manière de répondre, j'espère, à ta question.
Avant de passer la parole, je rebondis simplement pour dire oui, aussi aujourd'hui, on est devant ce phénomène qui est que les choses qui sont mises en ligne et partagées en direct sont aussi des archives. Du coup, on est dans l'archive instantanée, et donc on n'a pas de recul par rapport à ça, ce qui pose de nouvelles questions.